Vous écoutez Carnet d'expérience, un balado produit par Vertical Centre d'artistes. Dans cette troisième saison, les œuvres présentées dans les épisodes sont réunies sous la thématique fermentation, science et fiction.
Avec Clément de Gaujac, je suis artiste en art visuel. Je vis à Montréal depuis une vingtaine d'années et je fais de l'illustration aussi. Je suis auteur également. Et pour l'occasion de cette enquête sur le ver blanc, j'ai commencé une collaboration avec Marc-Alexandre Reinhardt.
Je suis artiste qui vit et travaille entre Gatineau et Montréal. Je travaille principalement avec le son, mais selon les différents projets, je travaille avec les médiums qui s'imposent dans les circonstances. C'est la première fois que je travaille avec Clément en duo, même si on a collaboré à différents moments dans le passé. Mais c'est la première fois qu'on assume un geste à deux pour cette enquête du ver blanc.
Si le thème de la fermentation suggérait aux artistes de prendre ce processus naturel comme un modèle pour réfléchir à ce qui se déroule dans la lenteur et dans l'imperceptible, les notions de science et de fiction, quant à elles, ont surtout inspiré dans les œuvres le recours à des méthodes et à des savoirs. Avec l'enquête des nuisances, Clément de Gaujac et Marc-Alexandre Reinhardt se sont eux aussi penchés sur un phénomène naturel quasi invisible. Ils ont fait usage de faits scientifiques et d'autofiction dans l'objectif non pas de clarifier le réel ou d'en inventer un, mais de spéculer des points de vue nouveaux sur leur sujet, tout autant que sur eux-mêmes. Ce faisant, leur processus laissait place à l'amusement, le leur et le nôtre, sans toutefois se détourner des questions éthiques et environnementales.
Avec Marc, on constatait qu'on avait justement un grand intérêt pour les discours, pour la manière dont la question du vivant avait surgi dans les discours, qu'ils soient artistiques ou politiques. Quand on pense à la cause environnementale, mais aussi dans tout le champ de discours théorique et artistique, comment tout d'un coup cette question dont personne parlait il y a 5 ans ou 10 ans avait envahi peu à peu tous les toutes les démarches artistiques, comment ça c'est devenu une question centrale. Voilà, on voulait plonger dans la mêlée. On s'est dit bon ben on va vraiment réfléchir à ça ensemble, et on s'est donné comme c'est à ce moment-là qu'on a croisé l'appel de projet de Vertical, et on y a vu comme vraiment une invitation, c'est ça, à plonger dans la mêlée, et puis à se donner un objet de recherche, et puis à voir comment en pratique nous on rentrerait dans cette question.
Puis Marc, en cherchant dans son rapport immédiat, est tombé sur cette espèce de petite créature qui infeste les pelouses et qui peut-être est finalement la plus éloignée de celle qui pourrait nous intéresser. Et on s'est dit, on va essayer de s'en rapprocher d'une façon, en utilisant nos outils, notre pratique artistique, notre curiosité. On va voir de quelle manière on pourrait s'approcher de cette créature qui a priori nous intéresse pas.
C'est une créature qui habite le territoire qu'on partage. Donc on coexiste, on cohabite avec cette créature-là, ce vivant-là, dont à Laval. Donc à Laval, le ver blanc est inscrit dans la liste des nuisances. Qu'est-ce qui fait que un être vivant peut être jugé une nuisance? Puis comment est-ce qu'on établit les relations avec cette chose-là qu'on dit nuisible? Sauf qu'en même temps, c'est une espèce qui génère des tonnes d'argent dans le développement de produits, de gestion de pesticides, etc., qui est inscrit dans une liste très sélecte de nuisances dans un appareil administratif d'une ville, qui est quand même une terreur pour beaucoup de propriétaires. Mais j'avoue que le verre blanc ne suscite pas des grands affects, des grandes émotions, des grandes réactions. Ça ne mobilise pas tant les gens. T'sais. Les gens s'en foutent un peu. T'sais.
Le verre blanc, c'est pas celui auquel j'aurais pensé. Et justement, parce qu'on n'y aurait pas pensé, on s'est dit, on va y penser. Puis les relations avec une chose qui est aussi, qui n'a pas de visage véritablement, qui est aveugle. Enfin, le contact par les sens est à peu près impossible.
C'est une espèce un peu générique. L'entomologiste, un autre des experts qu'on a rencontré, il appelait ça des petits sacs blancs. Tu sais. Mais ça dit beaucoup la manière...
Un sac d'organes, je crois. Il appelait ça un sac d'organes.
Un sac d'organes, bon.
Mais on voyait bien que, oui, c'est ça, que c'était un animal qui n'a pas des traits spécifiques qui permettent de raconter justement des anecdotes savoureuses, je sais pas, le bousier, il pousse sa boule, beaucoup d'insectes ont des traits spécifiques comme ça qui sont intéressants à raconter, mais en fait le scarabée, le hanneton est plate.
C'est vraiment pas une vedette dans le règne des insectes là.
C'est la larve. Étymologiquement, en latin, ça veut dire masque. T'sais. Alors, la larve du ver blanc est devenue un peu comme un masque ou un personnage conceptuel pour nous avec qui on dialoguait, tu sais, ou qu'on mettait en scène dans nos histoires, nos anecdotes. Donc, c'est vraiment devenu le moteur de nos spéculations, tu sais, ou le personnage de nos histoires qu'on se racontait.
Très vite, on s'est rendu compte, puis je pense que les cahiers des nuisances montrent bien ça, que l'objet de la recherche, dans le fond, c'est nous, encore plus que le ver blanc. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas nous dans une forme narcissique d'autoportrait en spécialiste de la chose animale. C'est plutôt autoportrait en ignorant de la chose animale. Et la question qu'on peut se poser à l'issue de l'enquête, c'est est-ce qu'il est resté anecdotique? Au départ, c'est un prétexte, ça c'est assumé comme tel. Mais je pense qu'on espérait qu'il devienne plus qu'un prétexte, en fait, qu'une rencontre ait lieu.
On a fait des dérives, donc on a fait trois dérives. Les dérives, c'était des dérives, disons, orientées d'une certaine façon, parce qu'avant d'arriver sur le terrain, on avait, disons, des points ou des lieux ou des personnes qu'on voulait rencontrer. Bien, c'était important pour nous, en tant que, disons-le, des anthropologues du vivant amateurs, c'est-à-dire... On est parti d'un désir d'aller à la rencontre du ver blanc, mais c'est important pour nous aussi d'aller à la rencontre des personnes qui ont déjà des relations directes ou indirectes avec eux. On a rencontré aussi des employés d'une entreprise de traitement de pelouse qui s'appelle Verdure, qui est l'entreprise la plus importante sur le territoire de la Valois, donc qui utilise des moyens techniques, disons, plus industriels pour gérer les populations de ver blanc. Donc, on a été les rencontrer, mais très vite, on a réalisé que... on a rencontré des résistances, où on a réalisé que...
On a rencontré des résidents, on a rencontré des résistances. Mais des fois, la spontanéité peut venir pallier à cette résistance. Par exemple, je sais qu'on est allé à un moment donné dans un Rona pour se renseigner sur les produits qu'on peut acheter pour combattre le ver blanc sur son terrain, sur les pelouses. Puis là, on a rencontré Michel, un employé du Rona, qui était absolument disposé à discuter avec nous. Et donc, il nous a raconté notamment comment sa voisine avait traité son framboisier contre le scarabée japonais, parce qu'en fait, le ver blanc, c'est la larve du scarabée japonais. Et donc, il y a plusieurs nuances. La larve détruit la pelouse, mais le scarabée, une fois métamorphosé, détruit les arbustes autour. Et elle, pour protéger son framboisier, a installé des pièges. Et en fait, les pièges, comme n'importe quel piège, fonctionnent avec un appât, et donc, en fait, attirent les scarabées. Et donc, les scarabées, sur le chemin du framboisier de la voisine de Michel, a mangé tous les framboisiers de Michel, quoi. Et donc, nous, c'est le genre de figure qui nous intéresse, parce que l'anecdote était plaisante en soi, parce qu'elle était vécue. Puis, je veux dire, il y avait tous les affects de Michel là-dedans, il nous les a partagés généreusement. Mais surtout, on y a reconnu une figure qui nous intéresse beaucoup, Marc et moi. Puis que je pense qu'à travers cette enquête-là, c'est ça qu'on recherche. C'est ce qu'on appelle des cercles tragiques, c'est-à-dire en voulant empêcher quelque chose, on le suscite. Et là, c'était, je veux dire, il nous l'a offert sur un plateau, quoi. Les pièges à ver blanc, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, les pièges à scarabée, qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent les scarabées, quoi. Ce qu'a nimbé un peu la rencontre, c'est un sentiment de déception, parce qu'on a bien compris que l'entomologiste, malgré toute sa passion pour son métier, et il voulait pas vraiment nous casser notre baraque, mais on sentait bien que c'était un animal pas très intéressant, celui auquel on s'intéressait.
Mais aussi, tu sais, explorer le fait que notre objet d'étude nous a transformés d'une certaine façon. Donc, comment les objets d'étude, un objet d'étude aussi banal que le ver blanc, peut quand même avoir un effet transformateur sur les personnes qui prennent le temps de l'enquêter.
On a des démarches de chercheurs tous les deux, mais on a aussi une forme de distance par rapport à ça. Donc on a mis en scène comme ça notre duo de détectives, et puis on s'est dit qu'on allait dériver d'informateur en informateur, que cette connaissance, il fallait aller la chercher auprès de ce qu'on appelle, oui, des informateurs ou même des experts. Et donc ces experts ont pu être des exterminateurs ou Améliane, dont tu parles, qui est une ethnologue philosophe qui réfléchit beaucoup justement à ces questions-là. On est allé à sa rencontre pour, comme on s'est posé dans la position du candide, en fait on avait besoin de rencontrer les gens pour alimenter notre pensée. Puis les cahiers sont devenus le récit de ces rencontres. Dans notre tête, il a jamais été question d'avoir des vrais spécialistes d'un côté et puis des faux de l'autre. En fait, je pense que dès le départ, ça nous intéressait de considérer que le commis chez Rona et le spécialiste de l'institut entomologiste, qu'ils avaient les deux une qualité d'expertise qui nous intéressait. Je pense qu'on n'opposait pas. Au contraire, nous, on voulait cerner le problème en allant voir, comment dire, des voix qui viennent de plein d'endroits, et on fait pas plus confiance à la science qu'à la pratique, qu'à la poésie pour énoncer des, comment dire, pour faire le tour d'un phénomène. La science ou la philosophie sont des champs du discours qui produisent tellement de, comment dire, un discours tellement intéressant et tellement complet que le risque est grand de finalement se retrouver juste à répéter des choses qui ont été dites ailleurs. Donc ça, c'est un écueil qu'on voulait éviter aussi en croisant vraiment les discours, sans les hiérarchiser.
Je pense que ce qui est important de dire là, c'est qu'on ne veut pas du tout aborder ça et du point de vue de la morale, justement, du point de vue du jugement. Et on se rend compte que c'est très difficile de s'en débarrasser, parce qu'à chaque fois, on retombe dedans. Mais notre vigilance, mettons, c'est à chaque fois qu'on arrive sur un jugement moral, c'est « Ah non, ce n'est pas avec ça qu'on va faire une œuvre ». On s'est dit au début, l'intuition, c'était on va s'intéresser à un truc qui ne nous intéresse pas. Et puis au fil de l'enquête, on se rend compte qu'il n'est pas intéressant. Mais je pense que ça nous intéresse, le non-intérêt, quoi. Enfin, je veux dire,
Mais je pense que sur un plan vraiment artistique, la question que je me pose, c'est comment on fait pour représenter les choses. Et parce que j'ai l'impression que ces représentations, comment dire, qui sont inspirées par le réel, en fait, elles font retour dans le réel et puis elles peuvent jouer un rôle dans, oui, dans, comment dire, quand on se représente les choses d'une certaine façon, ben, on guide nos actions d'une façon qu'on veut conforme à la façon dont on se les représente. On fait pas des énoncés de vérité, quoi. On soulève des questions dès qu'on trouve des petites formes qu'on appelle nos petites tragédies là, qui sont des formes qui donnent à penser. En fait, on les guettait au travers de nos rencontres. En fait, comment une discussion sur un objet comme le verre blanc, a priori un objet de dégoût, a priori une nuisance, débouche sur des petites formes de pensée là, des ouvertures de l'âme, je ne sais pas comment dire, qui peuvent oui, c'est ça, donner à penser et puis finalement devenir des petites formes poétiques.
Puis là, à partir de là, on veut réussir à raconter différemment ces histoires-là en les mettant en scène à travers des personnages. On appelle ça des personnages conceptuels, mais donc c'est des personnages qui pourraient mettre en voix ou dramatiser un peu les petits secteurs. Cercles tragiques qui sont apparus au gré de nos rencontres puis nos recherches.
Dans notre programme de travail, on s'était dit que dans la deuxième étape, on allait mettre ça en fiction. Qu'à partir du matériau, à partir de notre expérience, du vécu de cette recherche, on allait en faire une fable.
Chose certaine, c'est qu'on veut trouver un moyen de mettre en scène les personnages d'enquêteurs qu'on est devenus dans le processus.
Puis le cahier, c'est imposé un peu à nous dans la mesure où c'est devenu une forme, c'est une forme assez pauvre. C'est un cahier, c'est comme un feuilleton, si on veut. C'est quelque chose qu'on est en mesure de produire assez rapidement avec les moyens du bar, sans trop de frais, qui se distribue bien aussi, mais qui a aussi une certaine matérialité. Assez rapidement, on s'est posé la question de l'adresse, comment on voulait raconter, puis à qui. L'espèce de forme dialogique où on s'écrit l'un à l'autre, donc un « je » écrit à un « tu », ça crée une forme d'intimité, puis ça crée aussi... Ça nous permettait aussi, je pense, de rester un peu dans le quotidien. Tu sais. C'est pas comme des lettres qu'on s'écrirait, c'est plus presque conversationnel. Tu sais. Mm-hmm. Donc, on voulait garder, encore une fois, je pense, une manière aussi de garder le plus vif possible les interactions, les discussions qu'on avait au cours de l'enquête, tu sais, au cours des dérives. Tu
sais. Sur la couverture d'un des cahiers, j'ai dessiné un verre blanc... Donc la larve dans un petit flacon, puis je trouvais que le dessin était plate comme le verre blanc. Puis je lui ai mis deux yeux, puis tout de suite le dessin s'anime, puis devient comme un miroir dans lequel il y a un échange qui se fait en fait avec le dessin, mais un échange qui triche parce qu'on venait d'apprendre que le verre blanc est complètement aveugle. Donc c'est dans le fond, c'est trahir notre propre enquête que de lui dessiner des yeux. Mais c'est ça, ça pose des questions aux artistes qu'on est, qui travaillent la représentation ou la non-représentation. Puis là, on avait envie d'emmener le verre blanc sur ce terrain-là qui est nos propres discussions, Marc et moi, sur les enjeux de représentation, où il y aurait peut-être un pôle qui serait, mettons celui que je veux bien incarner, qui serait celui de l'illustration, de la ligne claire, du dessin transitif qui veut dire quelque chose, qui est signifiant, et puis un pôle que peut-être Marc incarnerait qui serait une certaine opacité, un minimalisme des formes qui affirment leur spécificité sans forcément vouloir dire quelque chose.
Dans un désir sincère, on voulait établir un lien avec le verre blanc. Puis ce lien-là, ou la manière de communiquer est tellement pas évidente, t'sais. Pratiquement impossible. T'sais. La seule manière que, véritablement, on peut réussir à communiquer ou interagir avec le verre blanc, c'est en lui prêtant des attributs humains. T'sais. Alors, dans notre désir de se décentrer, on en vient à... Mais on réussit pas, finalement. On échoue souvent. Mais...
À ce moment-là, ce qui nous agissait, c'était d'essayer de se rapprocher de qu'est-ce que c'est qu'être un ver blanc, mais pas comme une expérience de pensée intellectuelle, mais d'essayer de se rapprocher avec le corps. Et puis, donc, pour faire ça, parce qu'on n'avait pas de compétences, pas de pratique du corps, on est allé vers donc Catherine Lavoie-Marcus, qui est à la fois une très bonne amie à nous et une chorégraphe qui réfléchit à ces questions-là. Il y a quelque chose qui nous plaisait, je pense, dans sa pratique. En tout cas, je me souvenais d'une discussion avec elle où elle disait qu'une des manières de descendre dans le corps, c'est d'utiliser la métaphore. Mais je dirais que c'est une expérience qu'on a plus vécue que restituée. Parce qu'encore une fois, bon, on s'est aussi heurté à des limites. En fait, finalement, notre expérience n'était rien qu'humaine, et puis elle était peut-être moins intéressante à raconter que postuler ce qu'on a essayé de faire. Et donc le dessin sur la couverture de Cahiers 5, on nous voit tous les deux avec nos têtes un petit peu, comment dire, nos têtes de Candide et complètement emballées dans les sleeping bags, en fait, tente de restituer cette espèce d'élan freiné vers l'autre forme de vie.
Mais on a fait des ateliers avec une chorégraphe, Catherine Lavoie-Marcus, dans un désir sincère d'essayer de se décentrer à travers des gestes puis des expériences.
De mimétisme, en fait.
De mimétisme, ouais. On essaie de regarder comment le ver blanc circule, vit, comment il interagit avec son environnement, donc à travers les vibrations, à travers le ver blanc est aveugle. Donc, on s'y met dans une posture d'aveuglement où on est à l'écoute des vibrations dans l'environnement immédiat. Puis, donc, on essaie de mimer le ver blanc ou essayer de se mettre dans la peau du ver blanc ou essayer de vivre, de faire l'expérience du monde depuis la perspective du ver blanc. Par exemple, l'hyperventilation, aussi, ça nous permet de nous sortir de notre tête, de sortir du discours, de se décentrer de notre humanité. T'sais.
Comment on disait ça? Elle disait pour qu'on se coupe la tête un peu. Comment devenir ver blanc? Donc, c'est un peu ça la prémisse, comment devenir ver blanc.
Puis... Vivre comme des tubes, quoi, en fait. Parce ouais. que c'est ça, c'est... Il y a une bouche d'un côté, puis l'anus de l'autre. Puis, en fait, le ver blanc, c'est un petit peu un tube comme ça. Donc, on essayait d'expérimenter ce devenir tube.
Ouais.
Où on s'est mis dans des sacs de couchage aussi pour se priver de nos membres. Et de nos sens. Et donc, on s'est dit, quel dispositif on va créer pour le rencontrer. Alors, on a pensé à des masques, on a pensé à des danses, on a pensé... Puis, à un moment donné, Marc a eu l'idée de... Parce que les deux, on s'intéresse à la gravure, mais peut-être avec des approches un petit peu différentes. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que la plaque de gravure pouvait être une surface d'enregistrement de la présence du ver blanc. Donc, on, comme tentative de communication avec lui, on a enterré une plaque de cuivre dans un terrain à Laval.
Donc, le dernier geste qu'on a décidé de poser au terme du projet, c'était d'aller sur le terrain, de retourner sur le terrain où on avait mené les entrevues, puis de creuser des trous. Dans la pelouse bien entretenue des propriétaires, dans Champfleury, on en a trouvé beaucoup. On a même trouvé une infestation. Puis dans les terrains plus vagues, disons les terrains vagues, moins entretenus, on en a trouvé quelques-uns, mais sans que ça soit une infestation. Donc vraiment une présence normale de la larve dans le territoire. Donc ça l'a comme confirmé notre hypothèse de départ que c'est la manière qu'on cultive la pelouse, la manière qu'on, en banlieue surtout, on aménage le territoire, c'est ça qui crée la nuisance, finalement. C'est ça qui crée l'infestation. Puis là, on se demandait, est-ce que le ver blanc, il aime vraiment ça, habiter avec autant d'autres vers blancs, tu sais?
Je pense que la nuisance, c'est un frottement, quoi. C'est un frottement entre deux raisons sociales. C'est des zones qu'on a tendance à pas vouloir vraiment penser parce que c'est des petites zones désagréables. Et moi, je pense que, comme artiste, en tout cas, les zones difficiles à penser sont celles qui m'intéressent. Enfin, pas forcément difficile à penser, mais même désagréable à penser. C'est-à-dire, là, c'était la nuisance, bon, du ver blanc qui détruit les pelouses. La question, là, on la déplacerait sur complètement un autre terrain. Moi, j'avais ouvert la question des nuisances sonores, par exemple. Puis, pour Marc, c'est un champ qui est bien trop vaste et qu'il aurait fallu resserrer. J'étais d'accord avec lui.
Mais moi, ce que ça m'a donné envie, c'est d'aller étudier d'autres nuisances. Hein. Je pense que, puis Clément aussi, je pense qu'on partage un peu cette idée-là, de ce désir-là de poursuivre l'enquête autour de d'autres nuisances qui mobilisent peut-être plus les passions, les intérêts. Il y a quelque chose de plus qui est en jeu, si on veut.
Vous venez d'entendre le troisième épisode de la saison 3 de Carnet d'expérience, le balado produit par Vertical Centre d'artistes. Avec Carnet d'expérience, le Centre explore le format balado pour faire connaître des œuvres qui sortent des formes et des espaces traditionnels et pour donner place au discours que les artistes produisent sur leur travail. La co-réalisation de la série est assurée par les artistes Alexis Bellavance et Frédéric Lavoie, qui font toutes les entrevues et les captations, en plus du montage, de la sonorisation et des habillages sonores. L'appui à la coordination, la rédaction des textes et la narration est faite par moi-même, Gabrielle Desgagnés-Duclos, en tant que coordonnatrice à la programmation du Centre. L'équipe de Vertical est composée de Charlotte Panachiou-Letendre à la direction générale et artistique, Laurence Hague à la coordination administrative et Émilie Bernard à la coordination des communications. Vertical remercie les artistes pour leur collaboration et leur travail. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Laval dans le cadre de l'entente de développement culturel. Vertical est soutenu au fonctionnement par la Ville de Laval et le Conseil des arts et des lettres du Québec.